lyrique d'Albanberg dans l'interprétation du quatuor Albanberg. La suite du programme de France Culture, l'autre scène où les vivants et les dieux. Ce soir, Philippe Nemo propose Jean Calvin, sa vie, sa pensée. Avec Richard Stoffer, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, président de la 5e section de l'École pratique des hautes études. Texte lu par François Marié.
Écoutons un psaume de Claude Lejeune, un des principaux compositeurs français avec Claude Goudimel, dont nous entendrons plus tard quelques œuvres, à avoir créé le psautier huguenot, psautier écrit en français, c'est une des audaces de la réforme, et chanté sur une musique nouvelle, au rythme syncopé. Telle est la musique que l'on a chantée et que l'on chante encore dans les églises calvinistes, si ce n'est que l'austère Jean Calvin n'aimait guère que le chant de l'assemblée fût accompagné d'instruments. Il aurait même préféré un chant nu et sans polyphonie. Ses successeurs, fort heureusement, lui ont donné tort sur ce point. Lors d'une précédente émission, Richard Stoffer, vous nous avez présenté la vie de Jean Calvin, ce grand réformateur, ce grand penseur et homme d'action de la réforme.
Le second nom auquel on songe quand on évoque la réforme, après celui de Martin Luther. Jean Calvin est un Français qui est né en 1509, qui est mort en 1564, et qui, après diverses péripéties, a abouti en fait à Genève, ville à laquelle le nom de Calvin est lié dorénavant. Et c'est là qu'il a poursuivi son œuvre de théologien, son œuvre de prédicateur et son œuvre de réformateur, proprement dit, en fondant l'Église qui s'est appelée pendant enfin longtemps ensuite l'Église calvinienne, ou de tradition calvinienne. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur cette vie de Jean Calvin, sinon à l'occasion des textes que nous allons lire, et nous allons nous intéresser à la pensée même de Calvin, et plus précisément, puisqu'il s'agit d'un théologien, à sa théologie. Et c'est au fond la partie peut-être la moins connue de Calvin, puisque sa vie appartient un peu à l'histoire, et les historiens ont à en traiter, alors que sa pensée intéresse l'histoire de la religion, et elle est fort originale, et il y a une spécificité de la théologie protestante d'abord par rapport à la théologie chrétienne en général, et une spécificité de la théologie calvinienne dans la théologie de l'ensemble de la réforme. Alors, nous avions déjà dit quelques mots à ce sujet-là, la dernière fois, en parlant du rôle que Calvin attribue au Christ, en parlant de la christologie de Calvin, nous avions parlé également du rôle qu'il attribue à l'esprit, en soulignant le rapport qu'il y avait entre cette pensée de l'esprit chez Calvin et ce trait commun à toutes les théologies de la réforme qui est de lire Saint Paul, qui est le grand auteur qui a parlé de l'esprit, et donc nous avions un peu posé, dessiné le cadre trinitaire de la théologie calvinienne. Mais quelle est, ceci dit, la spécificité de la théologie calvinienne et quel est son esprit?
Les adversaires de la réforme au XVIe siècle ont découvert chez Luther et chez Calvin de nombreuses erreurs, et les adversaires les plus féroces se sont ingéniés à dresser des catalogues d'hérésies qui étaient monstrueux. Et certains ont décelé chez Luther et chez Calvin plus de 400 articles. En revanche, un théologien qui me paraît beaucoup plus subtil, c'est du reste un thomiste, c'est le cardinal Cajetan, lui qui avait interrogé Luther en 1518. Et parce qu'il était bon théologien, Cajetan a mis le doigt sur les deux points qui, à son avis, constituaient la spécificité de la réforme. Et ces deux points, ces deux principes, ce sont les principes de la sola fide et le principe de la sola scriptura. Le principe donc de la justification par la foi et le principe de la seule autorité de l'écriture. Et je pense que c'est le mérite et le génie de Cajetan d'avoir vu que la réforme se ramenait à cela. Et du reste, les théologiens protestants ultérieurs adopteront cette distinction. Ils diront que la justification par la foi est le principe matériel du protestantisme, l'écriture étant le principe formel. Vous voyez qu'on réintroduit les catégories d'Aristote, au fond, pas dans la théologie subséquente.
Alors ceci dit, la justification par la foi, cela veut dire que l'on exclut quel autre type de justification?
Évidemment, c'est l'exclusion la plus radicale de la religion des œuvres. Et Calvin insiste très fort sur cette justification par la foi. Il dit, je cite ce texte de l'Institution de la religion chrétienne, c'est le principal article de notre religion. Et le principal article, les théologiens ultérieurs qui reviendront au latin diront de la justification par la foi qu'elle est l'articulus vel stantis vel cadentis ecclesiae. C'est l'article à propos duquel l'Église existe ou tombe. S'il n'y a pas la justification par la foi, il n'y a pas d'Église. Alors comment la définir? Je voudrais, si vous le voulez bien, vous lire le texte. Il est un peu difficile, mais nous allons tout à l'heure en dégager les conséquences. Calvin définit la justification par la foi dans les termes que voici.
Dans l'Institution de la religion chrétienne, qui est l'ouvrage principal de Calvin, sans cesse augmenté au cours de sa vie, et publié plusieurs fois.
Exactement, exactement. Au fond, qui est le grand manuel et la première synthèse, disons la synthèse la plus élaborée, préparée par la réforme. Alors Calvin dit ceci: il nous faut premièrement expliquer ce que signifient ces locutions, être justifié devant Dieu et être justifié par foi ou par les œuvres. Et dit être justifié celui qui devant Dieu est réputé juste devant le jugement de Dieu et qui est agréable devant la justice de Dieu. Car comme l'iniquité est abominable à Dieu, aussi le pécheur ne peut trouver grâce devant sa face en tant qu'il est pécheur, et pendant qu'il est tenu pour tel. Pourtant, donc, c'est-à-dire par conséquent, partout où il y a péché, là se déclare l'ire, la colère et la vengeance de Dieu. Et donc justifié, celui qui n'est point estimé comme un pécheur, mais comme un juste, et à cette cause, il peut consister au trône judicial de Dieu, devant lequel tous les pécheurs trébuchent et sont confus. Comme si quelque homme accusé à tort, après avoir été examiné du juge, est absous et déclaré innocent, on dira qu'il est justifié en justice. Ainsi nous dirons l'homme être justifié devant Dieu, lequel, étant séparé du nombre des pécheurs, a Dieu pour témoin et approbateur de sa justice. Celui sera dit justifié par foi, lequel, étant exclu de la justice des œuvres, saisit parfois la justice de Jésus-Christ, de laquelle étant revêtu, il apparaît devant la face de Dieu non pas comme un pécheur, mais comme un juste. Ainsi, nous disons en somme que notre justice devant Dieu est une acception par laquelle nous recevons en sa grâce, il nous tient pour juste, et nous disons de cette justice qu'elle consiste en la rémission des péchés, en ce que la justice de Jésus-Christ nous est imputée. Alors voilà un texte très dense dont je voudrais tirer quatre conséquences. Tout d'abord, évidemment, affirmation de la gratuité totale du salut. Et ce salut, en quoi consiste-t-il? Eh bien, en une mise au bénéfice de la justice du Christ, plus exactement, en une mise au bénéfice de la justice que le Christ nous procure par sa mort sur la croix. Voilà le premier point. Deuxièmement, ce que je viens de dire de la gratuité n'est pas du tout annulé, comme on pourrait le penser, par la mention justice par la foi ou justification par la foi. On s'est imaginé dans un certain protestantisme, dans un certain néo-protestantisme, que la foi c'était, j'allais dire, la prestation de l'homme, la sécrétion de l'homme religieux, si je puis dire. En fait, la foi, tel que Calvin entend, c'est le don de Dieu par lequel l'homme saisit la justice du Christ.
C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que la foi est une sorte d'œuvre.
Voilà, voilà. Et je pense que c'est une déformation protestante qui n'a pas tardé à s'introduire, et on aboutit à cette simplification qui est évidemment une trahison du message de la Réforme. On vous dira, le catholique est justifié par les œuvres, le protestant est justifié par la foi, comme si la foi était précisément cette œuvre sublime que le protestant pouvait faire, alors qu'elle est don de Dieu.
C'est comme si la foi dépendait de l'homme seul.
Et voilà, voilà. Alors ça c'est une erreur, évidemment, nous sommes ici, je dirais, aux antipodes de la pensée de Calvin. Mais c'est évidemment une déformation qui s'est introduite très rapidement dans un certain protestantisme.
Alors précisons pourquoi il n'en est rien, parce que l'homme sera justifié, parce que le Christ pardonne les péchés, justement.
Parce que le Christ
n'est pas, il n'est pas justifié parce qu'il n'a pas commis de péché, mais parce que ses péchés lui sont pardonnés.
Parce que ses péchés lui sont pardonnés, et parce que le Christ entend pardonner ceux que Dieu, alors nous y reviendrons tout à l'heure, a élus de toute éternité. Je dirais, nous butons ici déjà sur la doctrine de la prédestination. Au fond, non la foi, que ceux qui sont élus
pour l'avoir.
Pour l'avoir, n'est-ce pas ? La foi est véritablement don de Dieu. Alors de cette définition de la justification, je dégage un autre caractère qui a souvent été occulté ou oublié. La justification a un caractère, les théologiens disent un caractère forensique, du latin forum, la place publique, mais l'endroit aussi où l'on rend la justice. C'est-à-dire que la justification par la foi a un caractère déclaratif. Être justifié, ce n'est pas devenir juste, intrinsèquement juste. Ce n'est pas devenir un petit saint, si je puis dire. Être justifié, c'est être considéré comme juste par Dieu. C'est être, moi qui suis pécheur, être revêtu, je dirais, du manteau immaculé de la justice du Christ. Vous voyez ? Donc, ce caractère d'imputation est dans le texte. Vous avez vu, à plusieurs reprises, il est dit être réputé juste, être tenu pour juste. Pas contre une justice infuse. Qui...
Si nous disons en somme que notre justice devant Dieu est une acception par laquelle nous recevons en sa grâce, il nous tient,
il
pour,
nous tient pour juste. Voilà. Et je crois que c'est extrêmement important, n'est-ce pas ? Ici encore, je ne peux pas le développer suffisamment longuement, mais il y a une critique implicite de la notion de justice infuse chère au catholicisme, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que pour le catholicisme, je ne sais pas si je l'interprète mal, mais c'est ainsi que les réformateurs l'ont compris, il y a un processus de justification, je dirais qu'il y a un habitus, un état qui fait que l'homme est tout de même introduit dans un état de justice, une justice qui existe en tant que telle. Alors que pour Calvin, même celui qui est introduit dans ce processus de justification, il a toujours besoin jusqu'au bout d'être justifié. Vous retrouvez ici, je dirais, la problématique luthérienne du simulius tous et peccator. Non, je suis juste, mais en même temps je suis pécheur. Au fond, la justification vous introduit dans un processus, dans un devenir, il y a une dynamique de la foi, alors que, je dirais, la vue catholique, en tout cas, des choses telles qu'elle existait au XVIe siècle, c'est une espèce de statisme.
C'est-à-dire que pour un saint Thomas, la vertu existe vraiment, c'est-à-dire que la justice est une vertu.
C'est ça.
C'est une idée d'ailleurs qui vient d'Aristote.
Exactement.
L'homme est indéterminé, mais s'il se comporte plusieurs fois d'une certaine façon, il devient moins indéterminé, c'est-à-dire qu'il commence à avoir des habitudes, des dispositions habituelles,
voilà.
Et s'il les cultive, ces dispositions habituelles deviennent des vertus.
Voilà, voilà. Alors c'est une mise en question radicale de la notion d'habitus. C'est pas, vous avez parfaitement raison, vous avez mis le doigt là, je dirais, sur un point essentiel de la théologie de la Réforme. Alors, quatrième conséquence à dégager du texte que j'ai lu tout à l'heure, cette justification gratuite, c'est évidemment la négation de la religion des œuvres. Les œuvres de l'homme le meilleur, ne seront jamais telles qu'elles lui permettront d'acquérir le salut. Bon, ça, c'est évident. Alors, on a vu parfois, dans cette doctrine de la justification par la foi, une invitation à l'amoralisme, ou au laxisme, ou à la passivité morale. C'est un reproche qui avait déjà été formulé à l'encontre de Luther. Eh bien, tel n'est pas le cas, la justification implique un certain style de vie, Je résumerai les choses ainsi, très simplement. Tu es juste, ou tu es considéré comme juste par Dieu, deviens-le. C'est un devenir, c'est un processus. Et alors cette justification implique pour Calvin, ceci me paraît extrêmement important, elle implique toujours la sanctification et la régénération. Et cela est si vrai que, dans l'institution de la religion chrétienne, Calvin, pour empêcher toute velléité d'amoralisme ou de laxisme, Calvin, et la chose est surprenante, traite de la régénération avant de parler de la justification. On pourrait dire que Calvin met la charrue devant les bœufs. Pourquoi fait-il ainsi? Sans doute pour couper court aux objections des théologiens romains de l'époque, qui disaient, mais enfin, cette justification par la foi, c'est une doctrine démobilisatrice. Alors Calvin commence par parler de la vie chrétienne, et ensuite il parle de la justification. Il ne faut pas voir là, je dirais, un ordre chronologique. Bien entendu, la justification est maîtresse, et c'est cette justification qui précède. Mais Calvin, pour désamorcer la critique, commence par la régénération.
C'est-à-dire la régénération?
Alors la régénération, Calvin l'a définie, c'est une très belle définition, c'est ce processus dans lequel le Christ tente à reformer perpétuellement dans le croyant l'image de Dieu altérée par la chute.
Là, c'est la régénération par rapport à la chute.
Oui. Voilà, c'est la régénération.
Par rapport à la dénaturation
Exactement.
Causée par la chute.
Exactement, l'image de Dieu ayant été détruite par le péché, il s'agit de la restaurer, et la régénération, c'est ce processus de restauration qui est effectué dans le croyant, au fond par, disons, par le Christ vivant, par l'Esprit. Et on a pu parler ici, et la chose me paraît très frappante, ce sont des théologiens catholiques qui ont souligné cet aspect, on a pu parler d'une mystique calvinienne. Et il y a ici des accents étonnants chez Calvin. Le croyant qui est véritablement travaillé, renouvelé par le Christ vivant, par l'Esprit, pour que l'image de Dieu soit restaurée en lui. Et la vie nouvelle, quelle est-elle dans cette perspective? C'est très beau, c'est cette image de la mélodie, de l'accord qui doit exister entre la justice de Dieu et notre obéissance. Un texte ici, si vous le voulez bien. Calvin dit ceci: nous ne pouvons être gratuitement justifiés par la seule foi sans que nous vivions aussi saintement, car ces grâces sont attachées l'une à l'autre comme par un lien inséparable. Celui donc qui cherche à être justifié par Christ, et cela de la bonté gratuite de Dieu, qu'il pense que cela ne se peut faire qu'en même temps, il ne saisisse la sanctification, c'est-à-dire que par l'Esprit, dit celui, il renaisse en innocence et pureté de vie. Or maintenant, ceux qui nous calomnient, comme si en prêchant la justice gratuite de la foi, nous retirions les hommes de faire bonnes œuvres, ceux-là sont suffisamment réfutés. C'est donc évidemment une réplique aux théologiens catholiques qui accusaient les réformateurs de favoriser l'amoralisme ou le laxisme.
Seconde grande doctrine de Calvin, très connue aussi, c'est la sola scriptura, c'est-à-dire le fait qu'on doit se déterminer, s'agissant des choses de Dieu, sur la seule écriture sainte, la seule Bible, et non pas sur toutes les interprétations données de cette Bible par l'Église, du moins pas de toutes les interprétations données par l'Église.
C'est ça.
Et il en résulte ce que tout le monde sait, à savoir que dans les milieux protestants, la Bible a une importance beaucoup plus grande que dans les milieux catholiques. La pastorale protestante elle-même se fait par la diffusion de la Bible, du livre même de la Bible, et c'est une grande différence, encore une fois, avec les catholiques, puisque l'Ancien Testament n'est guère lu dans les milieux catholiques, ou en tout cas n'a guère été lu dans les milieux catholiques du passé, à l'exception de quelques grands livres qui font partie de la liturgie, comme les psaumes.
C'est ça, c'est ça. Alors cette doctrine de la sola scriptura, donc l'autorité de la seule écriture, il faut la situer dans le cadre plus large de la doctrine de la révélation. Calvin estime que, bien évident, on ne peut connaître Dieu que dans la mesure où Dieu daigne se faire connaître à l'homme, dans la mesure où Dieu daigne se révéler. Et Calvin parle de deux révélations. Une révélation générale. Pourquoi générale? Parce qu'elle est adressée à tous les hommes. Une révélation qui se manifeste dans la création, dans le monde de la nature, et aussi, je dirais, au niveau de l'homme, qui est une espèce de microcosme étonnant. Et Calvin est persuadé que dans cette création tout entière éclate la splendeur et la gloire de Dieu. Il parle du monde qui est théâtre de la gloire de Dieu. Seulement, cette révélation générale n'opère plus. Elle est là, mais nous ne la voyons pas. Et pourquoi ne pouvons-nous pas l'avoir? Tout simplement raison du péché. Alors, nécessité d'une révélation qui, elle, nous touchera et pourra nous parler, c'est la révélation spéciale. Pourquoi spéciale? Eh bien, parce qu'elle est réservée au peuple de Dieu. Entendez, à Israël, il y a ce nouvel Israël qui est l'Église, et cette révélation spéciale, c'est la révélation qui nous est donnée dans la Bible. Et pour Calvin, seule cette révélation biblique peut nous conduire au salut. Un texte qui montre comment Calvin présente les choses, ici encore dans l'institution de la religion chrétienne. J'avertis les lecteurs, écoute la doctrine de foi et de pénitence, laquelle nous propose Jésus-Christ pour médiateur. L'Écriture a ce regard de magnifier le vrai Dieu et unique, qui a créé le monde et le gouverne par marques et enseignes notables, afin qu'il ne fût mêlé parmi la troupe des faux dieux. Par quoi convient que les hommes doivent dresser les yeux pour contempler les œuvres de Dieu, d'autant qu'ils en sont ordonnés spectateurs, et que le monde leur est dressé comme un théâtre à cet effet, toutefois le principal est, pour mieux profiter, d'avoir les oreilles dressées à la parole pour s'y rendre attentif. Voici donc un point résolu que pour être éclairé et adressé en la vraie religion, il nous faut commencer par la doctrine céleste, et que nul ne peut avoir seulement un petit goût de saine doctrine pour savoir que c'est de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait été à cette école pour être enseigné par l'Écriture sainte, car de là procède le commencement de toute droite intelligence, même nous recevons révéramment tout ce que Dieu y a voulu testifier de soi. Évidemment, l'Écriture, la Bible, n'est pas un code de loi, elle n'est pas davantage un livre de science, elle contient, pour Calvin, au fond, tout ce qui est essentiel pour nous dans le domaine du salut.
C'est d'ailleurs l'époque où on va commencer à ne plus considérer la Bible justement comme un livre de science.
C'est ça.
Car jusque-là, on l'a considérée comme image ou miroir du monde.
Exactement.
Et c'était la raison pour laquelle on pouvait provoquer de la lettre ce qui était dit dans la Bible. Là, à partir de l'époque de la Réforme, avec les grandes découvertes, avec la découverte de peuples manifestement antérieurs à l'histoire, marginaux par rapport à l'histoire décrite dans la Bible, il va y avoir un double effet en quelque sorte. Certains vont ne plus croire du tout à la Bible, c'est le début de l'humanisme et de la modernité, et puis d'autres vont lire la Bible d'une autre façon.
C'est ça. Alors il y a chez Calvin, je dirais, un accent de modernité, en ce sens que apparaît chez lui ici une doctrine très mal connue, mais très forte, la doctrine d'accommodation. Il dit dans l'Écriture sainte, Dieu se met à notre portée, et il emploie cette image que pour ma part je trouve admirable, Dieu bégaye avec nous, dans l'Écriture sainte, comme une nourrice bégaye avec les enfants qui lui sont confiés. Mais vous avez raison, c'est le moment où, je dirais, on rompt avec, cette lecture naïve de l'Écriture, dans laquelle on voulait trouver les fondements d'une science, sans doute. Alors, elle contient tout ce qui est nécessaire au salut, cette Écriture. Ici, peut-être un peu d'ingénuité, parce qu'on est convaincu que cette Écriture est dotée de clarté, de transparence. Mais attention, cette transparence, elle n'est pas immédiatement donnée au lecteur de l'Écriture. Et cette transparence n'est possible que dans la mesure où le Saint-Esprit vient sceller la lecture de l'Écriture dans le cœur du croyant. Je pense que la notion de témoignage intérieur du Saint-Esprit doit être prise très au sérieux. Et si le Saint-Esprit vient attester dans mon cœur l'authenticité de telle ou telle lecture, le Saint-Esprit ne va pas se démentir en attestant une autre vérité dans le cœur d'un autre croyant. Le Saint-Esprit est objectif. Le Saint-Esprit est objectif. Et alors, je crois qu'il faut absolument récuser ici la notion de libre examen. Il faut la récuser totalement. La notion de libre examen est une vue très tardive que le protestantisme a adoptée à partir du 19e siècle seulement. Puisque le Saint-Esprit opère dans le cœur du croyant, et bien après tout, pas besoin du truchement de l'Église. Mais alors ici, Calvin manifeste ce que d'aucuns appelleraient aujourd'hui un cléricalisme outrancier. Calvin estime que dans cette lecture de la Bible, le croyant doit toujours être guidé par la lecture de la Bible qui est faite du haut de la chair dans la prédication. Et Calvin emploie cette image, vous verrez, qui restreint, je dirais, singulièrement la portée de la lecture individuelle.
et qui montre bien pour Calvin que la lecture de l'Écriture, c'est une lecture qui se fait dans l'Église. Calvin dit, il emploie ici encore une image, il a de très très belles images, quand un petit enfant demande du pain à son père, le père ne lui donne pas la grosse miche de pain, il ne saurait qu'en faire l'enfant. Et le pasteur, il est, pour ses enfants que sont les fidèles, celui qui taille le pain de l'Évangile.
Néanmoins, Calvin et les prédicateurs protestants expliquant l'Écriture, ils l'expliquent en s'opposant à des interprétations antérieures auxquelles ils reprochent, tout simplement, de n'être pas les interprétations originelles.
Oui.
Donc, l'Église s'étend sur des siècles et des siècles, il y a l'Écriture sainte, il y a ses premières lectures, et puis il y a les réformateurs, et les réformateurs prétendent, pour parler tout simplement, revenir aux sources.
Revenir aux sources.
Et avoir un accès plus direct au
c'est
sens
ça.
Même des paroles.
Certainement, certainement.
Alors, contre quel type d'interprétation ils en ont, alors?
Ils en veulent à l'interprétation médiévale, ils en veulent à l'exégèse, aux quatre sens de l'Écriture. Mais cette exégèse avait abouti à une prédication qui ne passait plus. Quelle est la tâche d'un bon pasteur d'âme avant la Réforme? On ne lui demande pas de prêcher. On lui demande de célébrer les sacrements, de faire fonctionner, vous me pardonnerez l'expression, mais de faire fonctionner la mécanique sacramentelle. Nous avons des manuels, très beaux manuels de pastoral qui étaient rédigés par Fantin d'Andelot, un prêtre d'une grande famille vénitienne qui était évêque de Candie. Eh bien, cet homme qui était préoccupé de la situation spirituelle de ses prêtres leur adresse une série de recommandations. Il n'y a pas un mot au sujet de la prédication. La prédication ne fait pas partie, disons, des tâches d'un prêtre. C'est laissé, je dirais, bon, il y a quelques ordres qui prêchent, et alors, dans les ordres qui prêchent, on a cette idée que le Saint-Esprit, ne pouvant plus agir à travers la parole du prédicateur, comme le texte est tout de même sacré, il faut le respecter, on en arrive à ces artes prédicandi, comme on les appelle, ces arts oratoires, qui sont fondés sur la déclinaison des termes latins de la Vulgate qui doivent être développés au cours de la prédication. Erasme dit, j'ai entendu un prédicateur merveilleux qui prêchait sur le nom de Jésus. Et il disait, Jésus au nominatif se termine par un S. Et ce S, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est summum, qu'il est summum, toute chose. À l'accusatif, Jésus se termine par un M, ce qui veut dire médium ou médiateur, qu'il est le milieu ou le médiateur de toute chose. Et puis, au génitif, Jésus se termine par un U, il est ultimum, il est la fin, le début, le milieu et la fin. Eh bien, c'est exactement la manière dont on prêchait à l'époque où Luther apparaît. Et cette prédication ne passe pas. Si vous voyez, par exemple, des recueils de prédications de l'époque, c'est une espèce de charabia où le texte, il y a quelques phrases en langue vulgaire et puis de longues citations latines où le prédicateur, c'est bien que ça ne passe plus.
Est-ce que la Réforme va s'opposer à l'interprétation spirituelle ou symbolique de la Bible?
Elle s'en prendra assez vivement, évidemment, à l'allégorie et aux abus de l'allégorie. Pour Calvin, qui, en ce domaine, est tout à fait conduit par ses convictions d'humaniste, il s'agit de retrouver le sens naturel, le sens clair, le sens simple du texte. Alors que Luther, lui, va d'emblée, je dirais, dans sa lecture, essayer de découvrir Jésus-Christ. Calvin répond davantage, je dirais, aux normes du bon exégète, en tout cas telles que nous les voyons aujourd'hui, beaucoup plus que Luther, qui introduit directement la personnalité de Jésus-Christ.
Alors si Luther cherche dans les textes de la Bible ce qui se réfère à la personne de Jésus-Christ, nous dirons que Luther privilégie le sens typologique, enfin, qui est un des quatre sens médiévaux.
Oui,
et Calvin
oui.
Serait plus proche du sens littéral, alors, du sens
oui, le sens littéral, d'accord,
historique.
certainement.
Est-ce alors, que ce n'est pas un assèchement aussi par rapport à toute cette floraison de l'interprétation médiévale de l'Écriture?
Un assèchement, peut-être, mais à quoi a conduit, je dirais, en tout cas au niveau de la pastorale, cette exégèse, n'est-ce pas? Sinon, une espèce d'ésotérisme, une espèce de discours inintelligible, en tout cas au niveau des fidèles. C'est sûr qu'il y a eu, je dirais, des richesses d'imagination, des trouvailles théologiques étonnantes.
C'est
certain, c'est évident. Mais écoutez, une prédication de Saint-Bernard était accessible. Elle était accessible aux moines qui l'entouraient, mais enfin, le Concile de Trente a, je crois qu'il faut le reconnaître, travaillé de manière efficace, c'était évidemment un peu tard, mais enfin de manière efficace, de manière intelligente, et
Aujourd'hui, un certain nombre de théologiens catholiques, je pense à un homme comme Hans Küng, mais qui est évidemment très discuté, estime que la doctrine, disons, de la rédemption, telle qu'elle a été définie par le Concile de Trente, pourrait s'accorder finalement avec la théologie de la Réforme. Et le Concile de Trente a, en effet, réagi très fortement contre un semi-pélagianisme qui avait envahi l'Église et a montré les droits de la grâce. Et je pense qu'il y a là une théologie très, très équilibrée. Maintenant, dans le domaine de l'Écriture, il y aura donc reconnaissance de l'Écriture, bien évidemment, mais en même temps, reconnaissance des traditions reçues comme de main à main à partir des apôtres, n'est-ce pas? Et ces traditions, on parle plutôt des traditions, ce n'est pas la tradition au singulier, mais les traditions, ces traditions doivent être reçues pari pietatis affectu, avec la même piété, la même révérence que les livres saints. Alors évidemment, Calvin fulmine, n'est-ce pas? Calvin fulmine, parce que pour lui, il y a aussi un aspect extrêmement intéressant. Calvin prétend que l'accusation est originale, on l'a trouvée déjà chez Luther, que la papauté est un illuminisme, au même titre que l'anabaptisme est un illuminisme. C'est-à-dire que l'illuminé, c'est celui qui, au lieu d'écouter la parole de Dieu, parle lui-même et prétend parler au nom de Dieu. Alors, les anabaptistes, bon, nous les connaissons bien, ils ont été à l'œuvre dans les pays germaniques, on connaît les événements désastreux de Münster et d'ailleurs. Mais dans la papauté, il y aurait un illuminisme concentré en la personne du pape. Le pape qui, d'après le droit canon, porte dans le coffret de son cœur tous les secrets de Dieu. Et Luther et Calvin vont citer ce texte du droit canon.
Et puis dit Calvin, s'il avait assisté au Concile Vatican I, c'est-à-dire le concile qui a décrété l'infaillibilité du pape.
Ah alors,
il aurait explosé.
Il aurait explosé, bien évidemment.
Charles Stoffer, nous poursuivons cet examen de la pensée de Jean Calvin, de sa théologie, et enchaînons avec un point lui aussi fort célèbre, qui est la doctrine de la prédestination. Alors certains penseront qu'on a déjà un peu parlé en parlant de la sola fide, mais la doctrine de la prédestination est quand même distincte et elle vaut un examen spécial.
Certainement, et je crois qu'il est d'autant plus important d'en parler que Calvin a souvent été vu uniquement à travers cette doctrine. Alors vous dites doctrine de la prédestination, vous avez raison, on pourrait préciser, on pourrait dire doctrine de la double prédestination. Pourquoi double prédestination? Eh bien, je crois qu'il nous faut situer les choses par rapport à saint Augustin, qui est le grand docteur de la grâce, et qui a enseigné la doctrine de la prédestination. Et saint Augustin pensait que l'humanité était une masse de perdition, et que Dieu, dans sa bonté, prédestinait au salut un certain nombre d'âmes, abandonnant les autres au châtiment qu'elles ont mérité par leur péché. Donc, il y a prédestination, mais c'est la prédestination des seuls élus. Alors, pour Calvin, il y a double prédestination. Quiconque voudra être tenu pour homme craignant Dieu n'osera pas simplement nier la prédestination par laquelle Dieu en a ordonné aucun, c'est-à-dire certains à salut, et assigner les autres à la damnation éternelle. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire dans chacun homme, car il ne les crée pas tous en pareille condition, mais il ordonne les uns à la vie éternelle et les autres à une éternelle damnation. Ainsi, selon la fin à laquelle est créé l'homme, nous disons il est prédestiné à mort ou à vie. Alors c'est un texte
terrible.
Calvin parle lui-même du decretum horribile, du décret horrible qui fait frissonner. En fait, que se passe-t-il? Comment Calvin en est-il arrivé là? Eh bien, je pense qu'il y a chez Calvin une espèce de besoin de symétrie. Un besoin de symétrie, je pense que dans sa construction théologique, il édifie une admirable façade dans laquelle il y a, on dira que je procède un peu hâtivement avec la théologie d'un homme aussi brillant que celui-là, il y a des fausses fenêtres. Et alors, il y a le décret d'élection, et qui manifeste la miséricorde et la grâce de Dieu, et comme Dieu est justice aussi, n'est pas que miséricorde, Calvin proclame que le décret de réprobation, le décret de damnation, est une manifestation de la justice de Dieu.
Mais attendez, Jean Stéphane, oui? Pour comprendre cette symétrie, il faudrait peut-être préciser ou rappeler comment il pourrait ne pas y avoir symétrie. Puisque s'il y a un décret d'élection de ceux qui iront au paradis, on peut concevoir en effet que ce décret suffise, ceux qui y vont en enfer étant damnés, non pas à cause d'un décret symétrique, mais parce que toute l'humanité est damnée. Alors c'est la théorie de Saint-Augustin, les hommes ont péché par Adam, et donc tous sont damnés, tous sont coupables, et Dieu donc ne les condamne pas spécialement. Dieu il a assisté passivement à cette lamentable affaire que fut la chute, et Dieu simplement en sauve quelques-uns, pris dans la masse Adam Nata.
C'est ça.
Alors Calvin va ajouter...
N'est-ce pas, Dieu ne saurait, n'est-ce pas, dans le propos que vous venez de tenir, Calvin ne pourrait pas accepter la terre passivement. N'est-ce pas? Dieu n'est pas passif. Il y a des gens qui sont damnés, et s'ils sont damnés, bon, ils le sont en raison d'un décret éternel pris par Dieu. Et ce décret éternel manifeste la justice de Dieu. Ces gens qui sont damnés, ce sont des pécheurs, donc ils ne sont pas condamnés à tort. N'est-ce pas?
Alors, oui, mais enfin, ils étaient condamnés à être pécheurs.
Oui. Alors, vous voyez, je pense que, évidemment, là, je dirais, il y a là un paralogisme, comme certains auteurs l'appellent, un paralogisme qui nous paraît insupportable. Je voudrais relever ceci tout de même. C'est que, si Calvin parle de la double prédestination dans son œuvre systématique, qui est l'institution de la religion chrétienne. En revanche, il n'en fait pas un usage pastoral. Et c'est la chose qui me frappe, c'est qu'il y a eu, au cours de sa carrière, des événements au cours desquels il aurait pu dire de la chair. Il y a dans mon auditoire des coquins qui sont vraisemblablement des damnés. Eh bien, jamais il n'a procédé ainsi. Il ne fait, je dirais, jamais une utilisation pastorale du décret de réprobation.
C'est une thèse ésotérique, alors, pour, comme on dit techniquement.
Non, je dis que c'est une fausse fenêtre dans sa construction dogmatique.
Vous voulez dire qu'il n'y attache pas d'importance?
Ah, je dirais qu'il y attache une énorme importance, mais je dirais que, et c'est ici une thèse à laquelle je tiens beaucoup, le dogmaticien qui est Calvin doit être complété par le Calvin prédicateur, et que le prédicateur, et peut-être qu'on pourrait vérifier ça à propos d'un certain nombre de pères de l'Église ou de grands théologiens, le prédicateur met les accents sur des doctrines qui, peut-être, dans l'élaboration dogmatique, ont une autre place. Il y a une autre chose qui me paraît intéressante, c'est la manière dont les réformés, dont les croyants du XVIe siècle ont compris cette doctrine. Quand vous étiez réformé au XVIe siècle, vous étiez bien convaincu que vous apparteniez au petit troupeau des élus. Vous êtes parmi les élus, et cette doctrine, n'est-ce pas, dans laquelle certains ont voulu voir une source d'effroi, mais c'est une source d'effroi pour les méchants, mais c'est pas une source d'effroi pour les bons, pour les justes, vous voyez. Et alors, il y a dans Michelet en particulier des pages étonnantes où Michelet montre que la doctrine de la prédestination a été, au XVIe siècle, une source d'assurance extraordinaire.
Non, il n'a pas été... C'est... De France,
pardon, oui, dans son histoire, oui. Et alors, contrairement à ce qu'on imagine, les gens n'ont pas été terrorisés par cette doctrine, mais en milieu réformé, on y a trouvé la consolation, la douce consolation dont l'âme fidèle avait besoin.
Les protestants ont contesté, sinon l'Eucharistie, nous allons voir que le problème est complexe, du moins l'Eucharistie telle que c'est pratiquée dans l'Église romaine avant la Réforme. Et là encore, Calvin a une position à la fois qui est celle de la Réforme et une position originale dans la Réforme
elle-même. C'est ça. Oui, alors je pense que c'est ici qu'apparaît peut-être le mieux le génie théologique de Calvin. Bon, je rappelle que Calvin, avec les autres théologiens de la Réforme, rejette la doctrine de la transsubstantiation, qui a été promulguée au IVe Concile de Latran, qui a été renouvelée au Concile de Trente.
C'est-à-dire la doctrine selon laquelle, au moment de la consécration de l'hostie, la substance de l'hostie est transformée et devient vraiment le corps du Christ.
Exactement. Une transformation, j'allais dire, substantielle, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, les réformateurs rejettent cette doctrine de la transsubstantiation. Ils rejettent aussi la notion selon laquelle la messe serait un sacrifice, renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ. Et alors, Calvin va essayer de se frayer un chemin difficile, entre les conceptions de deux réformateurs. D'une part, la conception de Luther, et d'autre part, la conception de Zwingli. Quelle était la position de Luther?
Eh bien, Luther, rejetant la transubstantiation, est très attaché, au fond, à la réalité de la présence du Christ dans les espèces eucharistiques. Et Luther va formuler une doctrine qu'on a qualifiée de consubstantiation. Il n'a rien inventé, parce que la consubstantiation avait déjà été enseignée au cours du Moyen-Âge par un certain nombre de théologiens. Et pour Luther, au moment de la consécration des espèces, il se produit un miracle, comme dans la théologie catholique, un miracle en vertu duquel le Christ est présent, substantiellement présent, dans, avec et sous les espèces du pain et du vin. Alors voilà la position de Luther. De l'autre côté, la position de Zwingli. Zwingli dit, bon, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? Qu'est-ce que c'est que la scène, la sainte scène? La scène est un mémorial. Un mémorial de la passion, faites ceci en mémoire de moi. Et Zwingli, d'insister, certains ont voulu voir aussi une notion de présence réelle, mais en la situant non pas au niveau des espèces eucharistiques, mais en disant, c'est l'assemblée réunie autour de la table sainte qui, je dirais, qui reçoit réellement la présence du Christ. Mais en fait, parlons de, disons, du mémorial zwinglien. Alors, entre le mémorial zwinglien...
Le simple mémorial, pourrait-on dire.
Oui, mais je pense qu'il y a plus. Je pense qu'il y a plus chez Zwingli, d'après les interprètes récents, je pense qu'il y a davantage. Mais disons, le mémorial, indéniablement, le mémorial zwinglien et la consubstantiation luthérienne, Calvin va se frayer un chemin, et chemin difficile, et il va affirmer la réalité de la présence du Christ au moment de la célébration de la scène, mais une réalité mystérieuse qui est de l'ordre de l'esprit. Et Calvin se refuse à vouloir définir le mode de présence. Pour lui, il y a là un mystère de la foi, mais une présence réelle. Alors les théologiens qui aiment bien les formules ésotériques disent qu'il y a un réalisme pneumatique.
C'est-à-dire relatif à l'esprit.
Exactement. L'esprit est réalité par excellence. Je dirais, par l'esprit, le Christ se rend présent dans les espèces du pain et du vin. Et alors Calvin a exprimé cela dans un très beau traité. Le traité de la Sainte Seine qu'il a rédigé durant son séjour à Strasbourg. Et dans ce traité, il déclare en particulier ceci.
Il convient que pour avoir notre vie en Christ, nos âmes soient repues de son corps et son sang comme de leur propre nourriture. Cela nous est nommément testifié en la Seine, quand il nous est dit du pain que nous le prenions et mangeons et que c'est son corps, que nous buvions du calice et que c'est son sang. Nommément, il est parlé du corps et du sang afin que nous apprenions de là chercher la substance de notre vie spirituelle. Maintenant, si on demande à savoir néanmoins si le pain est le corps de Christ et le vin son sang, nous répondrons que le pain et le sang sont signes visibles, lesquels nous représentent le corps et le sang, mais que ce nom et titre de corps et de sang leur est attribué pour ce que ce sont comme instruments par lesquels le Seigneur Jésus nous les distribue. La raison de cette forme et manière de parler est très convenable, car, comme ainsi que ce nous soit une chose incompréhensible non seulement à l'œil mais à notre sens naturel que la communication que nous avons au corps de Jésus-Christ, elle nous est là visiblement montrée. C'est un mystère spirituel, lequel ne peut se voir à l'œil, ne comprendre en l'entendement humain. Il nous est donc figuré par signes visibles, selon que notre infirmité requiert, tellement néanmoins que ce n'est pas une figure nue, mais conjointe avec sa vérité et substance. C'est donc à bon droit que le pain est nommé corps, puisque non seulement il le nous représente, mais aussi nous le présente.
Vous voyez, ce ne sont pas des signes nus, ce ne sont pas des figures nues, et véritablement, dans les espèces eucharistiques, le Christ nous est représenté et présenté, offert.
Oui, c'est plus qu'un symbole.
Ah, c'est beaucoup plus qu'un symbole. Oui. C'est beaucoup plus qu'un symbole.
Et dans le même texte, Calvin compare cette situation avec celle de la colombe qui est descendue sur le Christ, lorsque le Christ a fait allusion à l'esprit. Et à ce moment-là, apparaît une colombe. Alors,
voilà.
La colombe n'est pas le Saint-Esprit, et néanmoins...
Elle est le signe de la réalité du Saint-Esprit.
Elle est le signe que le Saint-Esprit est là.
Est là, exactement. Ça, hein. Exactement. Cette image de la colombe, en effet, que Calvin utilise dans ce contexte, et qui est très belle.
Donc, les espèces, le pain et le vin, l'hostie consacrée, comme on dit,
oui,
ne sont pas elles-mêmes le sang et le corps du Christ, mais sont le signe indubitable que le Christ est là.
Le Christ est là présent.
Et donc, ce n'est pas seulement un symbole qui nous permet de penser au Christ là où il est, c'est-à-dire ailleurs, mais il est vraiment là.
Il est vraiment là. Et je crois que c'est extrêmement important, si bien que lorsqu'on définit la scène, disons, protestante ou réformée en disant sainte mémoriale, je dirais qu'on fait tort à Calvin et qu'on donne raison à Zwingli. Que Zwingli l'ait emporté peu à peu dans les églises réformées, c'est possible. Je pense qu'il y a peut-être un certain nombre d'églises qui pourraient opérer une révision dans leur doctrine eucharistique en recourant au texte de Calvin. Et ça, c'est une affaire de légation ultérieure.
Mais alors, Calvin célébrait la scène avec des hosties consacrées aussi
Il y a eu un conflit à Genève parce que les Genevois, sensibles à leurs voisins bernois, avaient voulu maintenir l'hostie. Pour Calvin, c'est finalement une chose indifférente. On renonce à l'hostie pour bien montrer la rupture avec les usages romains. Mais Calvin, par exemple, s'adresse aux réfugiés anglais qui sont à Wesel. Et ces réfugiés anglais communient dans des églises luthériennes qui utilisent les hosties. Et ces réfugiés anglais qui ont dû fuir en Angleterre sous le règne de Marie la Sanglante. C'est ce que nous allons communier dans une église où on vous donne la scène avec une hostie. Le Calvin dit, écoutez, enfin, il n'y a pas raison de faire sécession pour une chose comme celle-là. C'est une chose indifférente. Il y a la notion d'agaphoron, là, de choses indifférentes qui est utilisée dans la réforme.
Oui, parce que dans la messe romaine, l'hostie est donc transsubstantiée. Elle est transformée en la substance du corps du Christ, mais on la mange. Il y a la communion après.
C'est ça. On va communier avec du pain. Et c'est une façon non pas de banaliser la scène, mais c'est une manière de montrer qu'on a rompu avec la messe romaine.
Mais dans l'église romaine, encore une fois, dans la messe, on consacre l'hostie, on la donne à ceux qui veulent communier, et ensuite, cette hostie est considérée comme consacrée, justement. La transsubstantiation est, si j'ose dire, irréversible.
Elle est irréversible, et c'est la raison pour laquelle vous avez un tabernacle dans lequel l'hostie est conservée précieusement.
Alors, qu'en est-il dans les églises calviniennes?
Dans les églises calviniennes,
que fait-on du pain qui est...
Le pain n'est porteur de Christ, si je puis dire, qu'au moment de la communion, n'est-ce pas? Au moment de la communion terminée, ce pain redevient ce qu'il était auparavant. Et ici, il y a une critique très très dure. Je m'en excuse auprès de mes auditeurs catholiques, mais une critique très dure de Calvin à l'égard de la messe romaine. Il dit ceci, il dit, mais la petite souris, ça supposait qu'il y ait une petite souris dans une église, et qu'elle s'introduise dans le tabernacle, et qu'elle mange une hostie. Elle mange réellement le corps du Christ. Et pour Calvin, ça lui paraît monstrueux, vous comprenez? Non, il est bien évident qu'en théologie réformée, le pain qui a servi lors d'une célébration eucharistique, il redevient du pain, il est du pain, n'est-ce pas? Il est du pain. J'ai répondu, je crois, à votre question.
Calvin a organisé l'église de Genève, nous l'avons vu lors de la précédente émission, mais en même temps qu'il l'a fait, il l'a pensé. Et il a une théologie de l'église. Alors, qu'est-elle de particulier?
Je vais tout à l'heure souligner, à mon avis, c'est sans doute l'aspect le plus important de cette ecclésiologie, comme on dit, de cette doctrine de l'église, c'est son souci de la catholicité. J'en parlais tout à l'heure. Je dis d'abord que Calvin a un sens extraordinaire de l'organisation. Et que, devant cette église, et qui a accueilli le message de l'évangile, il éprouve le besoin de la doter de structure. Alors il ne fait pas entièrement œuvre originale, il va s'inspirer de Bucer, mais il va mettre au point, si je puis dire, une doctrine qu'on appelle la doctrine des quatre ministères. Le ministère du pasteur, qui prêche l'évangile et qui administre les sacrements, le ministère du docteur, qui enseigne la bonne doctrine, Ce ministère se confondurait souvent avec celui du pasteur. Le ministère de l'ancien, qui est chargé de veiller sur le respect de la discipline, et le ministère du diacre, assistance aux pauvres et aux malades. Alors, cette doctrine des quatre ministères étant élaborée, Calvin va mettre en place un système qu'on a appelé le système presbytéro-synodal, c'est-à-dire que chaque paroisse est animée par un consistoire, lequel consistoire délègue des représentants pasteurs et laïcs à des synodes régionaux, et vous avez, je dirais, toute une cascade de synodes qui, par exemple, dans les églises réformées de France, vont remonter jusque l'instance suprême qui est le synode national. Alors je n'insiste pas sur ce système. Je pense que la réforme ne s'est pas faite pour un système ecclésiologique déterminé. Et Calvin, dans ce domaine-là, était capable de souplesse. Et on l'a bien vu, par exemple, dans ses rapports avec l'Église d'Angleterre, dans ses rapports aussi avec la Pologne, où il est prêt à accepter un ministère épiscopal. Alors ce que je voudrais souligner maintenant, c'est le souci de la catholicité pour Calvin. Pour Calvin, il n'y a qu'une Église. La pluralité ecclésiale ne se conçoit pas.
Rappelons que le mot catholique vient du grec qui veut dire...
Universel.
Voilà, c'est ça.
Universel. Alors comment se pose le problème pour Calvin? Eh bien, Calvin dit, nous sommes, nous, la vraie Église. Et c'est l'Église romaine qui est schismatique. Et pourquoi est-elle schismatique? Eh bien, elle est schismatique parce qu'elle a abandonné l'Évangile. Et Calvin justifie cette position... Et il justifie la vocation des réformateurs dans une page étonnante de l'Épître à Sadolo. Parce que la question que l'on pouvait poser, spécialement un homme comme Calvin, qui n'a jamais été ordonné prêtre, alors que Luther a été prêtre, que Zwingli l'a été, que la plupart des autres réformateurs l'ont été, on pouvait dire à propos de Calvin, mais au nom de qui? Au nom de quoi est-il réformateur? Et Calvin s'explique dans cet Épître à Sadolo. Il déclare ceci.
Au regard de ce qu'ils m'ont objecté que je me suis séparé de l'Église, en cela ne m'en sens rien coupable. Si d'aventure celui ne doit être réputé pour traître, lequel, voyant les soudards épars et écartés, vaguant çà et là et délaissant leur rang, élève l'enseigne de capitaine et les rappelle et remet en leur ordre. Car tous les tiens, Seigneur, étaient tellement égarés que non seulement ils ne pouvaient entendre ce qu'on leur commandait, mais aussi, il semblait qu'ils eussent mis en oubli et leur capitaine, et la bataille, et le serment qu'ils y avaient fait. Et moi, pour les retirer d'une telle erreur, n'ai point mis au vent une étrangère enseigne, mais celui tient noble étendard qu'il nous est nécessaire de suivre, si nous voulons être enrôlés au nombre de ton peuple. En cet endroit, ceux qui devaient retenir les 10 soudards en leur ordre et qui les avaient tirés en erreur ont mis les mains sur moi. Et pour ce que constamment je persistais, ils m'ont résisté avec grande violence. Et a-t-on commencé grièvement à se mutiner, tant que le combat s'est enflammé jusque à rompre l'union. Mais de quel côté soit la faute et culpe, c'est maintenant à toi, Seigneur, de le dire et prononcer. De ma part, j'ai toujours montré en parole et en fait quel désir j'avais à union et concorde. Toutefois, j'entendais celle union de l'Église qui prend son commencement de toi et finit en toi-même. Car toutefois et quand que tu nous as commandé icelle paix et union, tu t'es déclaré quand et quand être le seul lien pour la conserver et maintenir.
Alors vous voyez, Calvin, c'est le soudard, c'est le soldat qui sort du rang.
Parce que c'est pas ça que le capitaine, que les autres soudards se dispersent ou oublient la bataille.
Oui, et les capitaines, et l'épiscopat qui fait défaut, et c'est le simple soldat qui élève l'enseigne de Jésus-Christ.
Qui reprend le drapeau.
Il y a une très belle image et dans laquelle vous voyez Calvin reproche aux évêques de ne pas avoir rempli leur rôle, au fond, de témoin du Christ. J'ai souligné la catholicité de l'Église, l'importance de cette notion pour Calvin. Et Calvin, donc, n'abandonne pas l'Église romaine, l'adjectif de catholique, il le revendique. Et il y a une autre chose qu'il faut souligner dans cette doctrine de l'Église. Pour Calvin, vous m'avez posé la question tout à l'heure, mais pour Calvin, le croyant fait son salut dans l'Église. J'ai souligné l'importance de la prédication, mais sur ce point, Calvin reprend la théologie de saint Cyprien, extra ecclesia nulla salus, hors de l'Église, point de salut. Et Calvin, dans des pages très nombreuses, montre que l'Église est la mère de tous ceux dont Dieu est le Père.
C'est un honneur fort excellent que Dieu attribue à l'Église en disant qu'elle est la mère de tous les fidèles. Et c'est selon que saint Paul en parle en l'autre lieu où il dit qu'elle est comme le pilier pour soutenir la vérité de Dieu en ce monde. Non pas qu'elle ait besoin d'être maintenue par nous qui sommes enclins à légèreté et inconstance, qui n'avons que mensonge de nature. Quelle fermeté, donc, y trouvera-t-on pour dire que la vérité de Dieu soit appuyée sur les hommes? Mais tant il y a que par sa bonté infinie, il veut que sa parole soit prêchée ici-bas et en a ordonné la charge à ceux qu'il appelle. Et pour cette cause, l'Église est nommée la mère de tous, car nous n'avons que Dieu seul qui soit notre Père, comme notre Seigneur Jésus-Christ le montre, voire tant du corps que de l'esprit.
Donc, vous voyez cette notion de maternité de l'Église que les protestants ont souvent oubliée ou occultée.
Il faut que l'Église transmette la parole.
Voilà.
S'il n'y a pas quelqu'un pour transmettre la parole, alors aucun croyant ne peut la connaître.
Voilà. Voilà, vous avez parfaitement raison, c'est l'Église... je dirais en qualité de médiatrice, de celle qui transmet la parole.
C'est ça, c'est moins sa réalité sacramentelle que sa réalité de médiateur de la parole.
Oui, remarquez, n'oublions pas l'accent sacramentel, mais il est évident que dans tous ces textes, c'est la prédication de la parole qui est mise en avant. Dans cette émission, je crois qu'il faut dire un mot des rapports de Calvin avec l'État. On a souvent accusé Calvin d'avoir voulu créer une théocratie à Genève. En fait, je crois que l'accusation n'est pas fondée. Calvin a lutté pour défendre les droits de l'Église contre les empiétements de l'État. J'y ai fait allusion dans la précédente émission. Calvin estimait que l'excommunication était du seul ressort de l'Église. Et en 1538, donc, ce conflit a revêtu un aspect aigu et qui a amené, nous l'avons vu, l'expulsion de Calvin de Genève. Alors donc... ce n'est pas une théocratie, je pense qu'il y a chez Calvin une doctrine des deux règnes. Il y a aussi chez Calvin toute une réflexion sur le droit de résistance au tyran. Et une réflexion qui aboutira à, je dirais, toute une doctrine de la résistance qui sera développée par ceux qu'on appelait les monarchomaques, sont les théologiens et les juristes français réformés, Hautement, Théodore de Bèze, Languet, d'autres encore, l'auteur ou les auteurs des Vindicier contra Tyrannos, des gens qui, après la Saint-Barthélemy, après le massacre de 1582, au fond s'interrogent sur les limites du pouvoir royal. Et alors Calvin pose les fondements de ce droit de résistance dans une très belle page de l'institution de la religion chrétienne.
Mais... en l'obéissance que nous avons enseigné être due au supérieur, il y doit avoir toujours une exception, ou plutôt une règle qui est à garder devant toute chose. C'est que telle obéissance ne nous détourne point de l'obéissance de celui sous la volonté duquel il est raisonnable que tous les désirs des rois se contiennent et que tout leur commandement cède à son ordonnance et que toute leur hautesse soit humilié et abaissé sous sa majesté. Et pour dire vrai, quelle perversité serait-ce, afin de contenter les hommes, d'encourir l'indignation de celui pour l'amour duquel nous obéissons aux hommes. Le Seigneur, donc, est roi des rois, lequel incontinent qu'il ouvre sa sacrée bouche doit être sur tous, pour tous et devant tous écouté. Nous devons, puis après, être sujets aux hommes qui ont prééminence sur nous, mais non autrement, sinon en lui. S'ils viennent à commander quelque chose contre lui, il nous doit être de nulle estime. Il ne faut avoir en cela aucun égard à toute la dignité de leur supériorité, à laquelle on ne fait nulle injure quand elle est soumise et rangée sous la puissance de Dieu, qui est seul vrai au prix des autres.
Il y aura évidemment, dans la théologie calvinienne en particulier, toute une élaboration, tout un développement du droit de résistance au tyran.
Et comment faire le partage entre les deux règnes, justement, entre quel va être le critère? Est-ce que l'Église calvinienne a fulminé contre tel ou tel roi précis, à la révocation des Îles Nantes, par exemple?
Ah bien, il y aurait ici, alors, je pense, toute une émission à faire sur la doctrine des monarchomates qui vont évidemment fulminer contre les tyrans. Et alors, la résistance doit être prise en charge par un magistrat inférieur, si possible par un prince du sang, vous voyez, parce qu'il y a tout de même chez ces gens qui s'élèvent contre le pouvoir royal un souci de légitimité. Ce n'est pas n'importe qui va organiser la résistance, et si possible un prince du sang.
Charles Soffer, Calvin, nous l'avons dit, est le théologien de la sola scriptura, mais il n'est pas seulement celui qui a pensé ce qu'était l'Écriture sainte et comment on devait la lire, il est également un praticien de la lecture de l'Écriture sainte et un exégète, autrement dit quelqu'un qui a lui-même commenté les livres de l'Écriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, et je crois même qu'il a commenté toute la Bible, sauf quelques...
L'Apocalypse, ça a été, j'allais dire, un ouvrage, disons, un livre qui faisait problème pour lui et qu'il n'a pas commenté. Je voudrais relever son souci de rechercher le sens propre, comme il dit, le simple sens, le sens naturel, et un souci de brièveté, alors que les commentaires de l'époque sont souvent très diffus. Calvin veut viser droit à l'essentiel. Et cette brièveté, il l'expose dans une lettre qu'il écrit à Simon Grinet, un de ses confrères réformateurs. Il lui dit ceci: « Il me souvient qu'il y a 3 ans, comme nous devisions privément entre nous quelle était la meilleure façon d'interpréter l'Écriture, que le moyen d'y procéder lequel vous approuviez le plus, fut aussi celui qui me plut plus que tous les autres. Car nous étions tous deux de cet avis que la principale vertu d'un expositeur consiste en une brièveté facile et qui n'emporte point d'obscurité. Or, combien que je sache que cette opinion n'est pas reçue de tous, et que ceux qui ne la reçoivent ont aussi quelques raisons qui les induisent à être d'autre avis, toutefois, quant à moi, on ne peut me détourner d'aimer cette brièveté. » Alors, je dirais que Calvin l'a fait merveille, parce qu'aujourd'hui, ses commentaires sont encore utilisés. Alors que quantité de commentaires d'autres théologiens, bon, c'est l'objet d'une recherche savante, mais je connais de nombreux pasteurs qui, avant de monter en chaire, consultent aujourd'hui encore les sermons de Calvin. Cette brièveté l'a véritablement servi, il a essayé de cerner et de saisir l'essentiel. Et alors, dans cette lecture, je reviens sur un point que j'avais déjà abordé dans la précédente émission. Dans cette lecture de la Bible, Calvin est conduit par le fil conducteur de saint Paul. La lecture réformée de l'Écriture est une lecture paulinienne, et Calvin dit ceci dans l'argument de l'épître de saint Paul aux Romains: « Je ne sais s'il est besoin de m'arrêter longuement à parler de l'utilité de cette épître. Car d'un côté, je crains que mes louanges, qui n'approcheraient jamais de la grandeur de celle-ci, ne fassent que l'obscurcir. D'autre part aussi, elle se démontre dès l'entrée et se donne à connaître plus naïvement qu'on ne saurait faire entendre de paroles. Par conséquent, il sera meilleur de venir à l'argument par lequel, sans difficulté, il apparaîtra immédiatement que cette épître, outre plusieurs autres et singulières grâces qu'on y trouvera, en a une propre et particulière, laquelle on ne saurait jamais assez priser et estimer. C'est que quiconque est parvenu à la vraie intelligence de cette épître a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. C'est donc l'épître aux Romains
qui est la clé
de l'Écriture.
Un chef de fer, Calvin, a simplifié la liturgie romaine par cette volonté de rupture dont nous avons parlé. Il a quand même créé une liturgie, c'est un liturge, comme on dit.
Oui, certainement, et il a formulé des prières admirables. Pour ne pas revenir sur, disons, l'ordonnance du culte réformé qui conserve les éléments principaux de la messe. Il y a là toute une évolution. Calvin s'est largement inspiré de la liturgie de Strasbourg, qu'il a remaniée, simplifiée. Mais je crois qu'il est utile de lire ici l'une de ses prières. C'est une prière qui est prononcée à la fin du sermon, une prière assez longue, et on ne peut en lire que le début.
Le voici, Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, nous reconnaissons en nous-mêmes et nous confessons, comme la vérité est, que nous ne sommes pas dignes de lever les yeux au ciel pour nous présenter devant ta face, et que nous ne devons pas tant présumer que nos oraisons doivent être exaucées de toi si tu regardes ce qui est en nous. Car nos consciences nous accusent, nos péchés rendent témoignage contre nous, et nous savons que tu es juste juge, qui ne justifie pas les pécheurs et les iniques, mais tu punis les fautes de ceux qui ont transgressé tes commandements. Ainsi, Seigneur, en considérant toute notre vie, nous sommes confus en nos cœurs et ne pouvons autre chose sinon nous abattre et désespérer, comme si nous étions déjà dans les abîmes de la mort. Toutefois, Seigneur, puisqu'il t'a plu par ta miséricorde infinie de nous commander que nous t'invoquions même du profond des enfers, et d'autant plus que nous défaillons en nous-mêmes, que nous ayons notre recours et refuge à ta souveraine bonté, puis aussi que tu nous as promis de recevoir nos requêtes et supplications, non point en considérant que ce soit de notre propre dignité, mais au nom et par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel tu nous as constitué intercesseur et avocat, renonçant à toute confiance humaine, nous prenons hardiesse en ta seule bonté pour nous adresser devant ta majesté et pour invoquer ton saint nom pour obtenir grâce et miséricorde. Et ensuite alors toute une série de sujets d'intercession. Et là, le prédicateur pouvait renouveler les thèmes, évidemment, selon les besoins et selon les circonstances. Mais une prière, évidemment, nous avons beaucoup de peine à les lire aujourd'hui parce que sont d'ample période, mais qui ont une grandeur étonnante. Dans ce cadre, il faudrait souligner que Calvin n'a pas été l'ennemi de l'art comme on l'a prétendu. Je crois que tous les textes qui ont été lus montrent que Calvin, et je ne fais que reprendre ici des formules qui ont été forgées par des spécialistes de la littérature française, Calvin était un des créateurs de l'éloquence française. C'est la formule qui a été utilisée par Abel Lefranc, par Jean Platard, qui ont étudié le style de Calvin et qui ont montré la modernité de ce style. Il a eu le mérite, n'est-ce pas, d'écrire en français et de faire de la théologie en français, une époque où la langue en était, j'allais dire, assez balbutiement.
Ça, c'est un des grands créateurs, au fond, de la langue française, un peu au même titre que Montaigne ou que Rabelais.
C'est certain.
À la même époque.
C'est certain. Et je pense qu'il vaudrait la peine, de faire lire. Il y a des textes que l'on pourrait lire encore aujourd'hui dans les lycées et qui sont dignes de figurer dans des anthologies au même titre que du Rabelais. Il y a des pages, vous savez, des pages de Calvin qui sont aussi truculentes que celles de Rabelais, dans la prédication. Des textes qui effaroucheraient sans doute quelques âmes pieuses, parce que Calvin appelait un chat, indéniablement.
Jean-Stoffer, Calvin est un prédicateur, c'est un homme d'action en même temps qu'un homme de pensée. Autrement dit, c'est un homme responsable, confronté à des situations concrètes, et à ce moment-là, il faut qu'il trouve les mots. Il ne peut pas se réfugier dans la théologie abstraite. Et justement, nous avons des textes fort beaux qui témoignent de ses ressources dans ces circonstances. Et nous avons une circonstance très dure où des jeunes protestants, étant condamnés à mort, Calvin leur adresse une ultime lettre.
Oui. En effet, il y a là une page étonnante et il faut citer dans ce contexte une expression qui a effarouché un certain nombre de protestants. On a parlé de Calvin directeur d'âme. Les protestants ne l'aiment guère, estimant que la direction spirituelle est le propre du catholicisme et que le protestant étant un croyant responsable n'a pas besoin de directeur d'âme. En fait, je crois que on peut employer l'expression, et même en terrain protestant, et Calvin, tout en respectant la personnalité des croyants auxquels il s'est adressé, a exercé un ministère de cure d'âme, de direction spirituelle, de façon étonnante. Il a correspondu avec les grands de ce monde, avec les martyrs de la foi, et vous avez fait allusion, en effet, à l'exemple des cinq écoliers de Lyon, comme on les appelait. Et que s'était-il passé?
Alors, oui.
Eh bien, en avril 1552, cinq jeunes théologiens français qui avaient été formés à l'Académie de Lausanne. C'est là qu'étaient formés les pasteurs des églises réformées de France. Retournent dans leur patrie après avoir acquis le bagage théologique dont ils avaient besoin. Ils sont dénoncés par un agent provocateur. Ils sont jetés en prison par l'official de Lyon.
Immédiatement, je dirais, la diplomatie de l'époque est mise en branle. Les cantons protestants, avec lesquels il fallait compter, les cantons protestants de Suisse, entreprennent des démarches diplomatiques pour essayer de sauver ces saints jeunes gens qui sortent de l'Académie de Lausanne, qui était placée précisément sous la protection de messieurs de Berne. Ce sont donc des élèves formés dans une académie qui a été érigée par les Bernois. Il s'agit de les sauver. Alors, les démarches n'aboutissent pas. Et lorsque tout espoir est perdu, Calvin écrit...
Alors, oui, ils vont être brûlés.
Ils seront exécutés. Ils seront
par brûlés. Le feu.
Par le feu. Et Calvin leur écrit, et sans les bercer d'illusions déprimantes, il leur dit ceci. Un texte qui est d'une grandeur et certains peut-être, question de sensibilité, diront d'une dureté. Moi, je dirais d'une grandeur étonnante.
À cette heure, la nécessité vous exhorte plus que jamais d'adresser tous vos sens au ciel. Nous ne savons pas encore quelle sera l'issue. Mais pour ce qu'il semble que Dieu se veuille servir de votre sang pour signer sa vérité, il n'y a rien meilleur que de vous disposer à cette fin. Le priant de vous assujettir tellement à son bon plaisir que rien ne vous empêche de suivre où il vous appellera. Car vous savez, mes frères, qu'il nous faut être ainsi mortifiés pour lui être offerts en sacrifice. Il ne se peut faire que vous ne souteniez de durs combats, afin que ce qui a été dit à Pierre ne s'accomplisse en vous, qu'on vous tirera où vous ne voudrez point. Mais vous savez en quelle vertu vous avez à batailler, sur laquelle tous ceux qui seront appuyés ne se trouveront jamais étonnés, et encore moins confus. Ainsi, mes frères, confiez-vous que vous serez fortifiés aux besoins de l'Esprit de notre Seigneur Jésus pour ne défaillir sous le fait de tentations, quelque pesant qu'il soit, non plus que lui qui en a eu la victoire si glorieuse qu'elle nous est un gage infaillible de notre triomphe au milieu de nos misères. Puisqu'il lui plaît vous employer jusque à la mort à maintenir sa querelle, il vous tiendra la main forte pour batailler constamment et ne souffrira pas qu'une seule goutte de votre sang demeure inutile.
Oui, Richard Toffert, ce texte est terrible, il est dur. Calvin dit aux cinq écoliers qu'ils vont être des martyrs, mais que le sang des martyrs servira, la formule ici est admirable, à signer la vérité du Christ, et que le sang des martyrs ne demeure pas inutile, c'est-à-dire qu'il est la semence de l'Église. Il y a une phrase dont le sens m'échappe, car vous savez, mes frères, qu'il nous faut être ainsi mortifiés pour lui être offert en sacrifice. Pourquoi faut-il un sacrifice ? À quoi Calvin fait-il allusion ici ?
Il y a, je pense, ici une reprise de sa devise. Le sceau de Calvin, c'est une main qui tente un cœur, avec les initiales JC. Certains ont voulu lire Jean Calvin. En fait, c'est Jésus-Christ, vous voyez. Alors, c'est, j'allais dire, le mot d'ordre du croyant pour Calvin, offrir son cœur en sacrifice de reconnaissance à celui qui s'est donné pour nous.
Ah, voilà, c'est un sacrifice de reconnaissance.
De reconnaissance.
Pour celui qui
s'est donné pour nous.
Ah, d'accord. C'est une sorte d'imitation du Christ, là.
Oui, Jésus-Christ.
L'imitation de Jésus-Christ.
Oui. Je dirais l'imitation du Christ protestant, puisque dans la notion d'imitation, disons, il y a peut-être une notion d'adéquation qui n'existerait pas du côté réformé. Oui. Mais d'accord avec ces nuances-là.
Enfin, en tout cas, ces cinq écoliers ont bel et bien grillé.
Ah ben, c'est évident. Alors, évidemment, le texte qui a été lu pose tout le problème de l'attitude de Calvin en face de la souffrance. Il l'a connue, la souffrance physique tout d'abord. Nous avons de lui une lettre que l'on ne peut pas lire ici, mais une lettre adressée au médecin, au professeur de la faculté de Montpellier, qui, vous le savez, était un des hauts lieux de la médecine à l'époque, et Calvin énumère tous les maux dont il souffre quelques années avant sa mort. Souffrance physique, il l'a connue, la souffrance morale aussi, et il est évident que tous les combats qu'il a eus ont fait que cet homme a eu une existence très dure. Et toute son attitude en face de la souffrance peut se résumer dans ce mot: tu me poignes, Seigneur, tu me poignes, il me suffit que ce soit ta main. N'est-ce pas ? Cette parole qui nous paraît extraordinaire, selon laquelle Bon, à travers les épreuves qui nous sont infligées, à travers les douleurs, à travers les tribulations, il s'agit de reconnaître la main de Dieu agissant par sa providence.
Et Calvin prononce cette formule dans son commentaire du livre de Job.
C'est ainsi qu'on pourrait résumer son commentaire du livre de Job.
Mais ça va très loin, puisque ça implique que le mal soit signe de Dieu, ou soit même, enfin, vienne de Dieu. Et non pas du diable.
Oui, Calvin se refusera toujours à faire de Dieu l'auteur du mal. Mais disant que Dieu se sert de Satan même pour accomplir son œuvre.
Si nous voulons être disciples de Christ, il nous faut mettre peine que nos cœurs soient remplis d'une telle révérence et obéissance de Dieu, laquelle puisse dompter et subjuguer toutes affections contraires à son bon plaisir. De là, il adviendra qu'en quelque tribulation que nous soyons, en la plus grande détresse de cœur qu'il sera possible d'avoir, nous ne laisserons point de retenir constamment patience. Car les adversités auront toujours leur aigreur, laquelle nous mordra. Pour laquelle cause, étant affligés de maladie, nous gémirons et nous plaindrons et désirerons santé. Étant pressés d'indigence, nous sentirons quelques aiguillons de perplexité et sollicitude. Pareillement, l'ignominie, contemnement et toutes autres injures nous navrerons le cœur. Quand il y aura quelqu'un de nos parents mort, nous rendrons à nature les larmes qui lui sont dues. Mais nous reviendrons toujours à cette conclusion. Néanmoins, Dieu l'a voulu. Suivons donc sa volonté.